Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, chères auditrices et chers auditeurs, je voulais vous souhaiter, au nom de Délivrez-vous pour ces deux ailes, une merveilleuse année 2020. Qu'elle vous apporte le bonheur et la joie, tous vos espoirs, vos espérances, et puis surtout une belle santé, et puis surtout, surtout, de belles aventures littéraires. Le meilleur en tout cas, merci de votre fidélité, de votre écoute, merci d'être là pour nous. Alors, pour cette année 2020, je vais commencer avec un auteur que j'ai rencontré grâce à son livre. C'est une histoire dans l'histoire. C'est l'histoire d'un roi, mais d'abord d'un petit roi qui m'a beaucoup émue. C'est l'enfance d'un roi soleil qui ne l'a pas été tout de suite et pour qui la vie, au début, n'a pas été si tendre, n'a pas été si facile. De cette éducation, de cette enfance, en a fait l'homme qu'il est devenu par la suite. Pour nous raconter cette histoire de l'enfant roi aux éditions IXO, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir François-Guillaume Lorrain. Bonjour.
Bonjour, merci.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour ce merveilleux livre sur l'enfant roi, sur Louis XIV, aux éditions IXO. Alors tout d'abord, on va un petit peu parler de vous. Qui est François-Guillaume Lorrain?
Écoutez, dans la vie civile, je suis journaliste au magazine Le Point. J'ai longtemps assuré la chronique cinéma et je m'occupe des pages histoire depuis une dizaine d'années.
Oui.
Et puis, je publie des livres, j'écris des livres depuis à peu près 25 ans. J'ai commencé très jeune.
Oui.
Ça peut être à la fois des enquêtes, des romans ou des livres d'histoire, mais je travaille en fait dans l'histoire, je travaille souvent sur les vestiges, sur la quête des traces.
Oui.
J'avais fait un livre, par exemple, sur les enfants du cinéma aussi, qu'étaient devenus les enfants du cinéma, donc déjà le thème de l'enfance.
Oui.
Mais du côté de l'histoire, j'avais fait tout un livre de voyage dans la France, qui s'appelle « Ces lieux qui ont fait la France », où ce qui m'intéressait, c'était la trace des événements là où ils avaient lieu.
D'accord, c'est intéressant.
Comment on recevait les lieux aujourd'hui historiques, comme ils s'est transformés au fil du temps.
D'accord. Alors, je vous avoue que quand j'ai reçu votre livre, L'enfant roi, sur l'enfance de Louis XIV, je me suis dit, allez, encore un de plus sur l'enfance. C'est vrai que pour ceux qui aiment l'histoire, on s'attache, Louis XIV, la période de Louis XIV, est comme une période faste, une période très intéressante, très riche de notre histoire, une des périodes les plus troublées aussi de notre histoire. Et puis, tout au long de ce livre, finalement, on rentre dans l'intimité de l'enfance de ce roi que finalement nous connaissions mal. Avec une mère, on va le voir, assez tyrannique. Il y a Mazarin aussi qui rentre en ligne de compte. Il perd aussi son père très jeune. Et en fait, de ce roi, de ce qu'il va devenir, c'est toute l'histoire de son enfance qui va faire l'homme, en fait, qu'il est devenu. Et on comprend mieux pourquoi il a été si intransigeant, qu'il a voulu le grand, le beau, parce que son enfance a été une source d'humiliation, une mère, je disais, tyrannique, un Mazarin qui a voulu en faire un roi, un père qui s'en est pas trop occupé. Donc on va faire tout ça, mais ce qui est bien dans votre livre, c'est que c'est délié, c'est-à-dire que chaque chapitre, c'est vraiment une petite part, c'est bien raconté, c'est bien détaillé, on y apprend plein de choses. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous êtes relancé dans cette aventure de l'enfance de Louis XIV.
Parce que au départ, je cherchais une histoire, comme j'ai souvent écrit sur l'enfance, mais cette fois-ci, je voulais l'aborder à travers le thème de la puissance et de l'impuissance à la fois.
Ouais.
C'est-à-dire, je voulais trouver une figure où se mêlent les deux de manière irréductible, paradoxale. Et je me suis dit, mais quel genre d'enfant cela peut être? Donc ce sera forcément, je suis très vite arrivé vers la figure de l'enfant roi, puisqu'il a la puissance de sa fonction, mais l'impuissance toujours de son âge vers laquelle on le renvoie. Et des enfants rois, il n'y en a pas eu beaucoup, et celle de Louis XIV m'a tout de suite arrêté, parce que En fait, j'ai remis le nez dans la fronde pour des questions journalistiques, parce qu'à un moment des gilets jaunes, j'ai fait toute une série de textes sur les émeutes.
Oui.
J'ai remis le nez dans la fronde et période très très compliquée, très complexe, avec des révoltes venues de toutes parts.
Oui, bah les princes qui se rebellent, il faut rappeler aux auditeurs, parce qu'ils se rebellent, la Fronde, voilà, les Condés, le prince de Condé qui se rebelle, les bourgeois,
de sa propre famille,
tout à fait,
des cousins.
Oui.
Et j'avais gardé le souvenir d'un récit quand j'avais à peu près l'âge de Louis XIV, c'est-à-dire 10 ans,
d'Alain Decaux,
entendu par Alain Decaux, de cette scène stupéfiante où la reine en Autriche demande à son fils de feindre, de simuler le sommeil, parce que le peuple en colère demande à voir l'enfant parce qu'ils ont peur toujours qu'il ait été exfiltré de nuit clandestinement hors de Paris.
Qu'il ait quitté le palais.
Et donc ils entrent comme ça dans une sorte de meute très en colère dans le palais royal. Ils montent dans les étages jusqu'à sa chambre et ils l'entourent. Et donc l'enfant joue la comédie du sommeil. Mmh. Et cette scène m'avait sidéré, terrorisé, stupéfait, et surtout on comprenait que le spectacle de cet enfant frappait d'étonnement et de stupeur le peuple qui s'adoucissait à cette vue-là.
Oui.
Voilà. Et en repensant à cette scène, je me suis dit mais comment l'a-t-il vécu? Et ça a été un peu le leitmotiv de ce livre, c'est comment peut-on être roi à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 5 ans, quand on doit, par exemple, prononcer un discours devant tous les pères du royaume, devant tous les grands du royaume, à 5 ans. Voilà, donc comment s'est-il formé? Comment s'est-il forgé? Comment a-t-il ressenti? Il y avait tout de suite l'humain ou l'enfant, je voulais aller vraiment au cœur, rentrer un peu dans sa tête.
Alors c'est vrai que dès son enfance, pour moi, c'est un être assez exceptionnel, assez hors du temps, hors du commun. Alors d'abord, ça a été un enfant très attendu parce que il y a eu pas mal de mésaventures. Louis XIII n'est pas très attentif auprès d'Anne d'Autriche. Hein, c'est un peu compliqué. Finalement, donc il arrive. On a peur qu'il soit malade parce que bien évidemment les enfants meurent souvent en couche. Il a tout de suite une gouvernante. Il est pris en charge par Mazarin, etc. Son père meurt. Il a alors 5 ans. Mais alors ce que moi j'ai appris, ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que on le raconte pas assez, on le lit pas souvent, c'est qu'Anne d'Autriche était assez féroce avec lui. C'est ça qui est incroyable.
Féroce, je dirais peut-être pas très très soucieuse.
Pas très maternelle.
À la fois quand même dans l'affection, aimant bien être entouré par son fils et c'est même ses deux fils puisqu'il y aura
qui
arrive deux
Philippe
ans après.
Danjou,
tout de même, il y a une sorte de presque, je dirais, de fusion affective, mais de très grande sévérité parce que pour plusieurs raisons, parce que d'abord une fois qu'elle devient reine mère,
elle a la régence,
elle oublie un peu tous les complots qu'elle a pu mener parce qu'elle est espagnole. Hein, faut pas oublier qu'elle est espagnole, qu'elle vient d'Espagne, l'Espagne avec laquelle la France ne cesse d'être en guerre. Et une fois que son mari est mort, elle assume complètement sa part française, je dirais. Et donc elle devient, elle accapare et elle assimile cette fonction de reine mère, mais elle veut l'exercer au mieux, au plus juste, et elle comprend que son fils est sa seule force et son salut, et qu'il faut, pour assurer aussi le salut de la France, que son fils soit le mieux éduqué possible. Mmh. Et donc, ça implique à l'époque certains rituels, certains préceptes d'une bonne éducation, d'un bon gouvernement, qui entraînent des sévices corporels, mais aussi une ribambelle de professeurs,
gouvernante, etc.
Le fait d'être très entouré, contrairement à ce que racontera de manière très très méchante et perfide ensuite Saint-Simon dans ses mémoires, qui dira qu'en gros il n'a reçu aucune éducation, qu'il a été laissé livré à lui-même, qu'il était un idiot parmi des idiots. Bon, faux. Et non, pas du tout.
Mazarin s'est chargé de son éducation aussi, il en a voulu faire un.
Voilà,
aussi.
Parce que Mazarin, il comprenne, c'est pas par bonté d'âme, par philanthropie. Ils comprennent que, d'abord, cet enfant dans un climat de grande détestation du pouvoir est un atout majeur, parce qu'on aime un enfant, peuple là. Il n'y a pas encore de remise en question de la royauté en tant que telle, on n'en est pas encore à la Révolution, mais tout de même, il y a de la contestation. Et cet enfant, le peuple, si on le montre, cet enfant, s'il se comporte bien, s'il montre des signes de qu'il va être un bon souverain, eh bien, ça va être un gage, ça va être un atout formidable pour Mazarin et pour la reine. Donc, on a tout le monde a intérêt à ce que cet enfant soit bien éduqué. Et donc, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que on l'entoure, on l'initie assez tôt, on le fait participer à des conseils des ministres, on va dire très tôt. On répond à ses questions s'il a des curiosités, on répond aussi à ses caprices, à ses désirs, mais pas tous. Voilà, il y a l'apprentissage des limites. C'est intéressant dans toute éducation. C'est bien sûr l'éducation, l'apprentissage des limites. Mais là, c'est intéressant parce que il est censé avoir le pouvoir, mais en fait, c'est un pouvoir extrêmement virtuel.
Virtuel, un peu
et c'est
factice,
compliqué parce que aussi, il y a tous ces courtisans qui sont autour de lui, qui le flattent, qui voudraient se placer déjà, même s'il a 7-8 ans, qui voudraient se faire voir, qui se disent bon, il faut parier sur l'avenir. Et donc lui, il est un peu écartelé entre toutes ces choses-là. Et bon, voilà, il y a des scènes étonnantes quand on lui apprend qu'un roi fait ce qui lui plaît. C'est une des choses que qu'un de ses professeurs a le malheur de lui apprendre et qu'il répète tout de suite à sa mère et quand il veut que sa volonté soit exécutée. Et là, on lui rétorque que non. Donc, c'est comme une double identité. Enfant parfois, roi aussi, quelquefois. C'est une oscillation, un basculement, un déséquilibre permanent, et ça, je trouve que c'est passionnant à rendre compte par de multiples scènes, en fait, des situations très différentes les unes des autres.
Alors, il a une santé de fer, il mange bien, il a une bonne stature, c'est un bon vivant. On associe ça à son grand-père, on rappelle que son grand-père, c'était Henri IV, quand même, un homme que les Français ont aimé, un homme de force, toujours gai, toujours... Mais il a cette
dont
force.
Dont on lui rappelle l'exemple.
Dont on lui rappelle l'exemple.
D'Henri IV, il sait apprendre par cœur des moments de la vie de son grand-père.
Mais il va tomber malade, il va être malade. Et là, ça va être un petit peu la catastrophe, un petit peu le désarroi, dirais-je, autour de lui.
Oui, alors le milieu médical, il est tel que un peu Molière l'a décrit. On a un médecin malgré lui, on connaît.
C'est ça.
Et donc les remèdes sont pas forcément les bons. On ne pense qu'à saigner. Saigner un enfant, il en reste pas grand-chose. Et ce qui est amusant aussi, c'est quand même que ce milieu de docteur exerce une fascination et oblige au respect même de la part de la reine et de Mazarin qui s'inclinent devant leurs préceptes jusqu'au moment où vraiment là on s'achemine tout droit vers une mort certaine. Et ce qui était intéressant aussi à raconter, c'était comment justement là on a la preuve dans des textes de première main moi que j'ai consulté pour écrire ce livre, ce roman, c'est que la reine brusquement cesse d'une certaine manière d'être reine, elle met tout entre parenthèses, elle annule tout, on va dire, et elle devient une garde malade. Et il y a ce moment de fusion aussi qui est important pour un petit roi qui ne voit pas toujours sa mère, voilà, il l'a pour lui seul, et elle est là pour lui seul aussi. Et puis arrive ce miracle, ce deuxième miracle, c'est un peu déjà l'enfant du miracle,
arrive son frère 2 ans après.
Et là, il se rétablit. Bon, il faut dire aussi qu'il est soumis à un régime Là, il revient de 2-3 mois de voyage.
Oui.
On peut imaginer les conditions de voyage de l'époque, mm-hmm. même si c'est le souverain.
Les routes mauvaises, etc.
Montré, mm-hmm. sur le front.
Mm-hmm.
Il est allé dans le nord de la France.
Oui.
On se bat beaucoup contre les Espagnols. Et là, il a mené une petite vie de soldat pendant plusieurs semaines, donc à l'âge de 9 ans.
Oui. Donc, mais 9 ans, mais avec une maturité quand même assez extraordinaire.
Oui, assez sidérante, mais ça, oui. on a du mal à l'imaginer aujourd'hui.
Complètement.
Mais on peut le trouver dans des textes parfois, certaines
personnes. Oui, puis on peut le concevoir. Peut le concevoir. Finalement, il y a aussi l'hérédité. On peut dire qu'il y a l'hérédité, les gènes, l'éducation, le ressenti peut-être des choses aussi. Et puis, ça peut être, c'était probablement un surdoué aussi, de toute façon.
C'est un mélange, c'est un caractère aussi.
Oui,
quand Brienne, par exemple, qui est un des rares amis, de très bonne famille évidemment, mais qui soit toléré, accepté dans le palais royal pour jouer avec lui. Et,
il y a sa marraine aussi, divertir. Charlotte de Condé.
Alors ça c'est... Et Brienne est un des rares à le décrire dans le caractère. Il dit c'est un enfant qui n'a pas pris le temps d'être de la légèreté, de la joie. Il a toujours tout de suite été dans le sérieux, dans la gravité.
Oui,
comme si très vite il s'attendait à ce que doit être le métier de roi, c'est-à-dire aussi l'apprentissage du pouvoir, donc de la solitude, du silence, de la méfiance, du calcul. Une distance établie autour de soi. Et ça fait partie du caractère, parce que par exemple son frère cadet était totalement différent, très léger, très enjoué, très plaisantin, très coquin.
Très coquin.
Et tandis que Louis XIV est là presque trop sérieux. Et en fait aussi, moi ce qui m'intéressait psychologiquement dans le parcours, parce que c'est un roman d'apprentissage, ce livre, je crois, c'est comment un désir qui n'est pas le vôtre, puisque ce désir, c'est cette fonction de roi qui lui tombe dessus à sa naissance, qu'il doit assumer, qu'il doit endosser, que tout le monde lui rappelle, comment l'accepter, l'admettre et la faire sienne.
Mmh.
Et comment y trouver quand même sa voix dans ce dressage, on va dire.
Oui.
Et c'est ça aussi le parcours que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire comment... parce que c'est un enfant qui aussi s'épanouit finalement et en arrive à véritablement incorporer tout ce qui fait le pouvoir. Puisque très tôt, une scène qui m'a sidéré, qu'on lit dans les mémoires du cardinal de Retz de manière en pointillé, puisqu'elle concerne le cardinal de Retz, qui était son grand opposant, qui était le grand... Agitateur,
entre autres.
Oui, un des nombreux, mais le plus intelligent, le plus retors. Il ne le décrit pas trop en détail, parce que c'est pas son avantage, le cardinal de Metz, mais c'est l'arrestation du cardinal de Retz, qui est décidée, orchestrée, mise en scène, par Louis XIV, qui n'a que 14 ans.
C'est ce que j'allais dire. Et au moment de l'adolescence, on va en parler un petit peu après la pause, à 14 ans, c'est déjà un homme responsable. Ça. On dessine déjà l'homme à venir. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec François-Guillaume Laurin pour son livre, son bel ouvrage sur l'enfant roi aux éditions XO. Alors, on aborde effectivement, je dirais, l'adolescence, mais a-t-il eu une adolescence, Louis XIV? Il prend déjà des décisions à 14, 15 ou 16 ans, et notamment, on le disait, du cardinal de Retz, mais il aborde aussi La prise en main, dirais-je, de son métier de roi dans une période très trouble, l'une des plus troubles de notre époque, avec la Fronde et tout ce que cela va impliquer. Mais il a déjà l'autorité, je trouve, la sagacité et surtout l'intelligence. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, on lui a appris, vous disiez, vous avez prononcé le mot dressage, mais j'ai l'impression que tout était déjà inscrit en lui. C'est ça qui est frappant.
Oui, enfin, ça c'est peut-être, et je vous laisse cette lecture.
Oui.
Moi, je pense que c'est un ensemble de. Il a beaucoup observé, il a beaucoup écouté les leçons nombreuses de Mazarin, qui est un formidable, qui est son parrain, hein, qui est le responsable de son éducation, qui est un formidable maître, qui lui apprend les vertus, ne pas trop savoir jusqu'où s'arrêter dans la répression, en particulier dans les arrestations de différents ennemis, savoir être toujours informé, savoir quand il faut donner, quand il faut recevoir. On est en période de négociation. Nous, en France, Mazarin était un formidable négociateur qui savait parfois céder pour reprendre, ou bien pour simplement, qui savait aussi s'éloigner. Parce qu'il, Mazarin se savait détester, donc se savait être un obstacle. Il explique tout ça, il explique à Louis XIV aussi les vertus du silence. Il y a toute une chapitre sur les leçons du silence.
Oui.
Le pouvoir qu'il y a chez un roi s'il ne parle pas. Parce que là, Mazarin l'oblige à faire tout un tour de France pour se réconcilier la royauté avec les parlements des régions.
Des régions.
Et donc les présidents de parlement, vous imaginez, donc un enfant qui a 12 ans, doit avoir des entrevues avec les présidents de parlement. Et Mazarin lui apprend à ne pas démentir l'autre, à toujours aller dans son sens, à lui faire croire qu'il est écouté, que ses désirs sont écoutés. Il apprend aussi, c'est une faculté qui va vite démontrer, c'est une grande prestance physique. Il va éprouver beaucoup de plaisir dans l'apprentissage de la danse.
Oui.
On le sait, le roi danse.
Oui, le roi danse.
Et là, aussi le maniement des armes.
Mais, des armes.
La danse, le théâtre, va être sans doute son premier, sa première scène, parce que peut-être sent-il qu'il y est là le plus à même d'être admiré, d'être au centre de tous les regards. Et pouvoir maîtriser son corps, voilà, c'est très important dans l'éducation du XVIIe siècle, la maîtrise du corps, le roi,
la prestance, la tenue,
la prestance, la majesté, la lenteur, un certain rythme, et il y a tout un rituel que là il assimile aussi très tôt et qu'il va plus que d'autres. Hein. Jusque là, les rois apprenaient par exemple à manier les armes, à chasser. C'était des signes de virilité, que le roi était en bonne forme et qu'il saurait mener les affaires du royaume. Mais lui est le premier véritablement à se lancer dans la danse. Donc il y a aussi, là on découvre, on anticipe un roi artiste qu'on retrouvera après.
Avec
Versailles. Mais un roi aussi...
Un roi bâtisseur aussi dans l'avenir.
Bâtisseur. Et un roi qui a conscience de la mise en scène.
Oui. Tout à fait. Oui, parce que dans l'avenir, il organisera des choses fabuleuses à Versailles. La construction de ce château, bien évidemment, l'agencement, les fêtes, l'organisation des jardins. Enfin, c'est dans l'avenir, ça va être. Moi, j'ai l'impression que toute cette éducation a forgé.
Bien sûr, évidemment,
c'est une préparation.
C'est une préparation, d'autant plus qu'il va, il ne va rien oublier.
Oui.
Il ne va pas oublier les humiliations, les moments où
justement,
il doit fuir
de lui. Ça a forgé l'homme qu'il est devenu. Ça a fait
on peut imaginer à 10 ans, ou par exemple certaines nuits, il est réveillé à 3 heures du matin et on lui dit « bon ben maintenant on s'en va ». Il faut aller à Saint-Germain-en-Laye et on part comme des voleurs parce qu'il faut échapper au pouvoir du Parlement de Paris ou des bourgeois. Donc tout cela, ou bien son cousin, le Grand Condé, qui
se prend
le pouvoir sur le front Louis. Bataille contre les Espagnols, et qui le traite de haut parce qu'il n'est pour lui qu'un enfant. Et ces humiliations, il va tout enregistrer. Ouais.
Il n'oubliera rien. Il n'oubliera rien.
Voilà, c'est une préparation à la revanche et à la vengeance, cette enfance.
Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai eu le sentiment, lisant votre livre, que vous étiez attaché à cet enfant. Je ne parle pas du roi, je ne parle pas du roi Soleil Louis XIV, mais à cet enfant que vous avez voulu raconter et un peu protéger en racontant avant pour expliquer l'après.
Oui, n'en faisant pas du tout un enfant idéal, hein, je montre tous ces mauvais moments, ces mauvais quarts d'heure, ces défauts, ces mauvais penchants. Mais je pense que de toute façon, on aime quelqu'un aussi pour
ses qualités, ses défauts, bien sûr.
Mais je pense que bon, c'est une banalité de le dire, mais que l'enfant est le père de l'homme. Ouais. L'homme est intrigant. L'homme a fasciné, l'homme a souvent été... on a eu beaucoup de mal à décrire, à percer son armure, tellement il s'entourait de murs et de distances. Et je pensais que c'était une bonne porte d'entrée. Par ailleurs, moi, j'ai toujours beaucoup écrit sur l'enfance, sur des enfants qui sont... Comme je vous disais, j'ai fait un livre sur les enfants qui ont marqué le cinéma français, qui ont été aussi dans la lumière. Mm-hmm. Et c'est un enfant, là aussi, qui est dans la lumière, mais qui dit lumière, dit ombre. Et dans les livres d'histoire, vous savez, on a toujours quelques lignes qui vous racontent tel petit événement, mais en fait, on n'en connaît pas les coulisses, les préparatifs, les circonstances. Et je pense que c'est là ce que le roman peut apporter à l'histoire, il s'agit en fait de c'est comme un iceberg. Il faut descendre dans la partie immergée. Il faut imaginer les dialogues, les circonstances, les situations précises qui ont donné cet événement et le comprendre par le biais de bien sûr de la psychologie et de ces personnages. Et par ailleurs, si je puis me permettre, je pense que très immodestement, je me suis un peu projeté moi-même.
Oui.
J'ai eu une enfance très particulière, d'éducation très dure. Mm-hmm. Et voilà, je pense qu'il y a eu une empathie.
Le ressenti, l'empathie,
possible.
Oui, tout à fait. Voilà. Mais cette fascination qui a toujours imprimé Louis XIV, je crois que c'était un des rois les plus connus en France et au monde.
Et dans le monde entier.
Cette fascination, elle est, comment vous dirais-je, elle perdure avec votre livre, c'est-à-dire qu'on s'attache à l'enfant, on s'attache à l'adolescent, et en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, je ne sais pas comment seront vos lecteurs, mais pour moi, ça ne fait qu'augmenter un peu cette fascination, cette admiration que j'ai pour cet homme, avec ses qualités, ses défauts. Il avait aussi de grands défauts, il pouvait être profondément injuste, arrogant aussi, égoïste, vaniteux, mais c'est néanmoins un grand homme, un grand bâtisseur. Il a aimé profondément les femmes, alors pas toujours justement non plus. il est mort très âgé. Hein,
Il a porté pendant près de
70 ans le royaume.
Il faut se rappeler qu'en fait là c'est le début d'un long compagnonnage avec la France qui va durer près de 7 décennies.
Tout à fait.
C'est aussi
extraordinaire. C'est ça aussi qui en fait la fascination et l'admiration. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Il va incarner et ce rapport aussi très compliqué, mais très complexe, mais en même temps passionnant avec les différentes couches de la population, parce qu'il s'interroge aussi sur, par exemple, il se sent évidemment autre, particulier, singulier, il sait qu'il est le roi, mais il s'interroge aussi sur l'enfance des autres. C'est aussi ça quelle est l'enfance d'un fils de bourgeois, quelle est l'enfance d'un fils de paysan, il se sent à la fois, il veut aller vers les autres encore, et il se fait aussi un peu prisonnier sa charge aussi. Oui. Ça aussi, il y a quelque chose d'assez tragique d'ailleurs,
oui,
en fait,
c'est vrai.
Moi, de cette figure de l'enfant, oui. Parce que il se sait à la fois condamné à être roi. Et on lui explique qu'il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix. Oui. En tout cas, c'est un bien beau livre, l'Enfant Roi aux éditions Ixo avec François Guillaume Lorrain. Rapidement, vos prochains projets dans l'histoire, une nouvelle envie.
J'ai terminé un deuxième volume des lieux qui ont fait la France que j'ai publié chez Fayard. Donc j'ai refait un tour de la France. Sur 15 chapitres, 15 lieux, comme par exemple raconter l'histoire de l'abbaye de Clairvaux.
Ah oui, c'est intéressant. Ah ben, je l'ai visité, grâce à justement à, comment il s'appelait, celui qui a été à Clairvaux, le bénédictin, ça m'échappe.
Saint-Bernard,
voilà. J'avais fait toute une étude sur Saint-Bernard de Clairvaux, voilà.
Oui, c'est un lieu fascinant.
Très intéressant.
Ou bien j'ai fait tout un chapitre sur Bordeaux, trois fois capitale de la France.
Et il est sorti le livre, il va sortir?
Non, ça c'est dans un an.
Écoutez, on se retrouvera avec plaisir pour cela, alors, pour une petite balade française sur les lieux. En tout cas, je rappelle le titre de votre livre, L'Enfant Rose, édition Ixo. C'était un vrai plaisir de vous recevoir.
Merci
infiniment. Je serai heureuse de vous retrouver effectivement dans un an pour cette balade en France.
À bientôt.
Voilà. Merci beaucoup.
Bonne année.
Merci.
Bonne année.
Mes voeux à vous aussi. Au revoir, François-Guillaume Lorrain.
Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.